Les jeudis de l'économie avec la BCI. BCI, la banque partenaire de tous les entrepreneurs calédoniens.
Les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu pour parler cette semaine du milieu associatif, des difficultés qu'il rencontre, lui aussi mis à mal par les émeutes et leurs conséquences. Certaines des associations ont du mal à faire face à leurs charges, alors que pour beaucoup d'entre elles, elles assurent aussi des missions de service public. Alors quelles sont leurs difficultés aujourd'hui? Leur avenir est-il menacé par un manque de moyens? C'est ce dont nous allons parler avec les quatre invités qui sont sur ce plateau. Thibaut Bizien, qui est le coprésident du collectif des associations, Viviane Laffey, qui est la directrice d'Initiative NC, Quentin Rétali, le directeur du Chapiteau, et Christophe Dabin, le président du CTOS. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Un premier tour de table très rapide pour qu'on sache bien qui parle de quoi. Thibaut Bizien, coprésident du collectif des associations qui s'est créé assez récemment.
Alors il s'est créé il y a 10 ans en réalité.
Et
on l'a relancé effectivement pour défendre les associations et les dispositifs qui sont nécessaires à leur bon développement.
Voilà. Et Viviane Laffey, Initiative NC en deux mots.
Une association qui aide à promouvoir tout ce qui est entrepreneuriat. Donc on aide des porteurs de projets qui créent, reprennent des entreprises sur tout le territoire de manière gratuite.
Quentin Rétali, le directeur du Chapiteau.
Alors oui, le Chapiteau, c'est une structure itinérante et qui est principalement sur la décentralisation, dans le spectacle vivant, l'égalité à la culture, beaucoup aussi de travail avec le milieu scolaire et puis vraiment ce rééquilibrage au niveau culturel.
Allez, Christophe Dabin, quand même en deux mots, le CTOS, même si on a une petite idée quand même.
Représentant du mouvement sportif en Nouvelle-Calédonie.
Voilà, et qui fédère aussi, qui travaille avec toutes les ligues qui existent en Nouvelle-Calédonie. Merci à tous les quatre d'être venus. Ce n'est pas par hasard si on vous a invité dans un jeudi de l'économie, Thibaut Bizien, parce que lorsqu'on parle des associations, on parle assez peu du poids économique qu'elles représentent aujourd'hui. Et pourtant, c'est un poids réel.
Oui, complètement. Il y a 10 ans d'ailleurs, quand le collectif s'est créé, il y a eu une étude qui a été pilotée justement et qui a démontré qu'il y avait plus de 3000 emplois en 2015 qui étaient liés aux associations. Donc ça, ce sont les emplois directs, donc ça reste une très grosse économie. Mais derrière aussi, il y a bien sûr les emplois indirects avec toutes les prestations qui sont commandées lors des événements et lors des activités qui sont menées par ces associations. Et donc ça représente aussi un ruissellement qui est assez conséquent pour la société calédonienne. Et on ne s'en rend pas toujours compte. Donc il y a des missions d'intérêt général, des missions de service public. Donc il y a un vrai poids socio-économique des associations et elles sont très structurantes pour la société calédonienne.
Dans vos associations respectives, vous faites travailler des salariés, Quentin Rétali, au Chapiteau par exemple?
Oui, au Chapiteau on en a. Alors comme disait Thibaut, moi je parlerai moins de ruissellement que de répartition, parce qu'en fait dans le secteur associatif on a souvent moins de salariés que de personnes qui travaillent en prestation ou en ponctuel. C'est-à-dire qu'en fait il y a énormément de l'économie qui est externalisé. C'est l'emploi salarié, c'est une partie assez minoritaire finalement. Donc c'est vrai que quand on prend 3000 salariés sur le secteur associatif, en réalité on se rend compte que si on prend cet axe là c'est assez une petite lunette. En fait on va toucher plutôt 10 à 15 000 personnes si on considère tous les gens qui œuvrent dans le secteur.
Viviane Laffey, vous faites aussi appel vous à des salariés, parce que c'est une association au service des entreprises en quelque sorte.
Oui, tout à fait. Jusque mi-mai on était 7 permanents. Et effectivement, une quarantaine de bénévoles, on peut faire appel à des prestataires sur un certain nombre de choses, comme les parcours qu'on a pu aider, comme entreprendre au féminin. Donc, mais oui, on avait 7 permanents.
Vous avez réduit?
Oui.
De combien?
Pour le moment, d'une seule personne.
Pour le moment, mais ça veut dire que les choses ne sont pas encore stabilisées, si je peux m'exprimer ainsi.
En tout cas, il y a encore des incertitudes, tout
à fait. Et puis Christophe Dabin, on rappelle que dans le sport aussi, notamment les ligues, font appel à un certain nombre de salariés pour faire tourner les structures, parce qu'il faut de la compétence, là encore, il faut de l'expertise et il y a besoin de personnel.
Tout à fait, c'est vrai que autant les ligues que les clubs, on a quand même quelques salariés, mais on va dire que comme dans tout monde associatif, je veux dire le mouvement sportif travaille et fonctionne avec énormément de bénévoles. Tout à l'heure, Quentin parlait de 3000 bénévoles, mais je pense qu'on est loin du compte, parce que quand on regarde tout ce qu'il y a autour. Mais c'est vrai que les salariés aujourd'hui, on en a dans le mouvement sportif, mais avant tout, ça reste malgré tout et avant tout des bénévoles. Et je reviens un petit peu sur ce que vous avez dit, Jean-François, tout à l'heure, sur le service public qu'on rend. Parce que je crois qu'aujourd'hui, personne n'en est vraiment conscient. On a un système métropolitain, français, et ainsi de suite, qui fait que le monde associatif est extrêmement présent partout. et que, ben, je veux dire, on crée des associations parce que les institutions, je veux dire, délèguent une grande partie de leurs compétences sur, et leurs demandes sur le mouvement associatif. Et quand on est mouvement associatif, on n'a pas de chiffre d'affaires. Bien souvent, on fonctionne sur des subventions. Et aujourd'hui, on rend un service public, mais on s'aperçoit maintenant depuis quelques mois que ce service public, il a de plus en plus de mal à être rendu, pour tout simplement pourquoi ? Parce que on n'a pas les subventions qu'il faut derrière. Mais simplement pour fonctionner et pour rendre ce service que les institutions normalement devraient rendre.
Et cela, bien, oui. Cela s'explique notamment par le manque de dispositifs comme les conventions pluriannuelles ou aussi les délégations de services publics, c'est-à-dire qu'en fait, on convient qu'une partie du service public repose sur les associations, mais on ne l'a pas contractualisé, sécurisé. Et donc, en ce sens, on est très différent. Il y a des associations qui sont dans le loisir et des associations qui, clairement, vont s'occuper des personnes précarisées en situation de handicap, dans la santé.
Dans le secteur santé, oui. On pense notamment à tout ce qui est lutte contre le diabète.
Oui, entre autres. Alors, il y a des secteurs qui sont sécurisés et qui font l'objet de conventions qui les sécurisent, et c'est une très bonne chose, mais ce n'est pas le cas de toutes et tous, et c'est pour ça qu'il y a un vrai sujet sur le traitement des associations et comment justement différencier les différentes structures avec leurs activités et faire en sorte de sécuriser ce qui est absolument essentiel, ce qui est structurant pour la société calédonienne.
Oui, Viviane Lafay.
Oui, parce que dans l'économie, enfin, il y a plusieurs façons de le voir, mais on est créateur de valeur, et cette valeur, elle ne se calcule pas que financièrement, en fait. Quand je disais qu'on faisait des choses gratuites, bah, c'est mon chiffre d'affaires, il est de zéro. Donc ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'apporte pas de la valeur dans la société. Et toutes les associations, on est beaucoup créateurs de valeur, même si on n'arrive justement pas à la quantifier de manière traditionnelle.
Alors ça, est-ce que justement, et c'est une des aides que va peut-être apporter l'AFD, Thibaut Bizien, c'est de mener une enquête approfondie aussi sur ce que sont les associations, ce qu'elles représentent dans le poids économique. Enfin voilà, il y a peut-être besoin de données un peu plus précises pour valoriser tout ça et bien comprendre ce qui se joue derrière ce milieu associatif.
Oui, en fait, c'est très démonstratif. La carence des chiffres démontre le manque de considération dont on a fait preuve. Il faut reconnaître, la seule étude sur le secteur associatif au niveau global, elle a été faite, elle est pilotée et menée par le collectif des assos il y a 10 ans. Aujourd'hui, une nouvelle étude est en cours et on remercie bien l'AFD parce que c'est une des rares bonnes nouvelles de la fin d'année pour pouvoir permettre d'avoir cette étude qui va donner les impacts de la crise, mais aussi permettre d'avoir des chiffres précis sur le secteur associatif en 2024, ce qui va nous accompagner dans le plaidoyer pour les dispositifs dont on a besoin, et notamment aller faire du militantisme au Congrès, mais aussi dans les institutions calédoniennes, pour qu'on puisse mieux collaborer avec les institutions et mieux rendre nos services et développer notre activité.
Alors, prenons et être un interlocuteur à part entière, titre que d'autres acteurs de l'économie.
Voilà, on sent que vous sentez que vous n'êtes pas assez écouté d'une certaine façon. C'est un petit peu ce qu'il faut entendre.
Ce qu'on a vu quand même dernièrement, c'est qu'on réunit l'ensemble des forces vives de la Calédonie et puis il n'y a aucune asso. En fait, il y a beaucoup le monde économique et c'est très bien parce qu'il est très impacté et il est très structurant lui aussi, hein, bien sûr. Mais on existe, nous, et on touche à la fois à l'économie, on touche à la fois au service public et on touche bien sûr avant tout la société civile. Donc c'est très important que les associations, de manière structurée, puissent être sollicité, être consulté, concerté.
Quentin Rétali, si on prend un exemple, on va prendre le chapiteau, mais sans rentrer dans les chiffres, quelles sont les sources de financement? Quels sont vos apports? Quel est l'argent qui rentre? Quel est l'argent qui sort? Comment ça fonctionne?
Alors, le chapiteau, vous prenez un exemple assez compliqué parce qu'on a dû énormément métisser les financements de l'association pour arriver à continuer, parce que je ne suis pas le seul dans ce cas. On est beaucoup d'associations qui, depuis 10 ans, essuyons des baisses régulières et parfois drastiques de financement. Donc on est déjà...
C'est vrai que vous ne pouvez plus compter sur un fonctionnement que sur l'argent public.
Non. Pour donner une idée, on est passé au début d'un fonctionnement où il y avait 80% qui étaient conventionnés et 20% à trouver, quoi. Hein. Alors quand je dis à trouver, ça peut être des appels à projets ou des choses comme ça, c'est pas forcément que de l'argent privé, ça peut aussi être d'autres sources d'argent public, mais on est passé de 80-20 à aujourd'hui 50-50 voire même 40-60 parfois, donc 40% qui sont subventionnés. Quand je dis ça, ça veut dire que quand on commence l'année, il nous reste 60% du budget à trouver. Et encore, comme ce n'est pas des conventions pluriannuelles, il faut attendre la signature des conventions qui, des fois, et régulièrement, arrivent entre les mois de juin et de novembre. Je suis encore en train de signer des conventions qui concernent 2024 sur des actions qu'on a réalisées sans aucune garantie qu'elles allaient réellement être financées. Donc, et ça, c'est pas lié particulièrement aux émeutes. Alors, c'est aggravé par les émeutes, mais c'est en fait régulier. Moi, des conventions qui sont signées dans le premier semestre, je les compte sur le doigt de, sur un doigt ou deux. Voilà. Donc, du coup, on est obligé, pour arriver à maintenir le service, que, bah, après, voilà, c'est toujours pareil, on le juge essentiel parce que il n'est pas officialisé. On n'a pas, les provinces n'ont pas mis en place de reconnaissance d'intérêt général ou ces choses-là. Ça se fait au jour le jour, bon an, mal an, par rapport à une reconnaissance sur les bilans qui ont été rendus. Et puis, ok, c'est bon, on continue à vous suivre. Mais voilà, on est obligé, du coup, d'aller chercher sans arrêt d'autres moyens. Donc, ça peut être du mécénat, ça peut être du don, évidemment. Ça peut être aussi de proposer des prestations pour arriver à trouver des équilibres. Et puis après, maintenir quand même un maximum, le plus possible, l'émission.
Mmh. Viviane Lafay ?
Oui, puis ce qui me semble aussi important, c'est qu'on gagne en visibilité, c'est-à-dire que pour gérer, on a besoin d'avoir un peu de visibilité, parce que prendre le risque de faire des choses alors qu'éventuellement on ne va pas être suivi, bah maintenant on ne peut plus le prendre, par exemple. Donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre de choses qu'on va vraiment attendre pour le mettre en œuvre, même si ça pénalise les fameuses valeurs dont je parlais tout à l'heure, parce qu'on a besoin de cette visibilité, comme toute bonne gestion, en fait. Et il n'y a pas de raison qu'on soit géré autrement qu'en bon gestionnaire.
Alors, ce que disait Quentin Rétali est important, c'est-à-dire que le fonctionnement des associations était déjà un peu complexifié ces dernières années par une réduction régulière des subventions publiques. Mais est-ce que les choses se sont aggravées quand même depuis le 13 mai, par exemple dans le milieu sportif, Christophe Dabin, est-ce que vous avez vu malheureusement une accélération, si je peux appeler ça comme ça, de la paupérisation des associations ?
Je pense qu'on tous autour de la table, on a un constat à faire, c'est que de toute façon, le budget des associations, c'est l'élément, je veux dire, qui va permettre d'ajuster les budgets de chacune des collectivités. Donc, quand il n'y a pas d'argent, automatiquement, ce sont les associations, quel que soit le secteur, hein, sportif, social, culturel, ainsi de suite, c'est vraiment les premiers. On a bien vu pour le Covid, où il n'y a presque pas eu, durant la période de Covid, aucune subvention. Donc, c'est clair que nous, aujourd'hui, on est les derniers sur la liste. Hein. Donc, quand on n'est pas, comme soi-disant, on n'est pas essentiel, donc on ne fait pas. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe, moi, je ne parle que du CETOS, mais je pourrais parler aussi de tous les clubs et ligues. Moi, en 10 ans, j'ai perdu plus de 60% du montant des subventions. Donc, vous imaginez ce que ça représente. Et moi, j'ai quand même plus d'une dizaine de salariés. Donc, vous imaginez ce que ça représente derrière. Mais on avait déjà cette baisse et on en est tous conscients aujourd'hui. Mais depuis le 13 mai, c'est que, du coup, il n'y a aucune collectivité qui peut donner l'argent. Ça veut dire que dans tout ce qu'on fait, on le fait, mais on ne sait pas si à un moment ou à un autre, on va, oui ou non, je veux dire, percevoir des subventions. Moi, j'attends mes subventions et je sais qu'elles ont été divisées par deux, rien que pour le bon fonctionnement. Eh bien, on m'a dit que c'est mandaté, mais j'attends toujours à ce que ça arrive sur mon compte. Et on est aujourd'hui le 5 décembre. Ça veut dire que, heureusement parfois, que les associations, elles ont une trésorerie qui leur permet malgré tout de pouvoir fonctionner, mais aujourd'hui, vu la situation, Je ne sais pas combien et quel est le pourcentage d'associations aujourd'hui qui ont la trésorerie pour faire face à la situation.
Thibaut Bizien.
Mais oui, c'est complètement vrai. En fait, il y a une forme de souffrance parce que c'est très compliqué de gérer. Ça nous demande d'être extrêmement dynamique et de performer régulièrement. Sauf qu'au bout d'un moment, il y a des burn-out, il y a des difficultés, il y a des désengagements, il y a de la vraie souffrance dans le monde associatif parce qu'on n'a pas eu les dispositifs nécessaires pour nous sécuriser. Et ce n'est pas faute d'avoir milité, d'avoir alerté sur des choses qui étaient très simples et qui auraient à la fois convenu au fonctionnement associatif, mais aussi à la bonne gestion des institutions. On parlait des conventions pluriannuelles. Savoir de commencer une année sans savoir quelle est la contribution de l'institution et quand est-ce qu'elle est versée, c'est juste impossible d'être
gestionnaire. C'est déjà compliqué quand on sait qu'il y a de l'argent dans les caisses publiques, mais ça devient très compliqué quand on sait qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses publiques.
Et il faut rappeler aussi qu'il y a des associations qui ont été prises pour cible des exactions. Il y en a qui ont brûlé intégralement, il y en a qui ont été complètement détruites. Donc il y a quand même énormément d'associations qui aussi ont structuré avec des salariés qui ont été impactés. Des associations dans le social, dans l'éducation, dans le sport. C'est important. Et là aussi, elles ont besoin d'aide pour se relever et elles ne trouvent pas de solution.
Elles ne sont pas éligibles au fonds solidarité.
Alors, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que les associations sont éligibles au fonds de solidarité ? Est-ce qu'elles ont bénéficié ou peuvent bénéficier du chômage partiel lorsqu'elles doivent se séparer d'un certain nombre de salariés, Quentin Rétali ?
Oui, alors pour ça, donc non, toute la partie aide d'État. a été le secteur associatif, contrairement à ce qui avait été obtenu pour la crise Covid, où il avait fini par être intégré. Là, il n'en a même pas été question. Donc le secteur associatif n'a pas été éligible.
Les choses sont peut-être pas fermées, si. Elles sont fermées.
Ça fait des mois qu'on en parle.
Ah non, là, c'est fermé. C'est fermé.
Enfin, là, on arrive quand même le 5 décembre, et ça n'a, c'est toujours même pas en bonne voie de discussion. C'est-à-dire que on nous écarte, on nous dit « vous n'êtes pas économique ». Donc, malgré le fait que tous les critères ont pu... Certaines associations, je ne dis pas toutes, mais certaines associations sont parfaitement éligibles au fond. Le seul critère, c'est parce que vous avez un statut associatif. Mmh. Donc, à un moment, c'est un peu compliqué. Après, par contre, le chômage partiel, oui, si l'association est employeuse et peut faire rentrer dans les critères normaux du chômage partiel, elle peut en bénéficier. Mmh. Mais ça, ce n'est pas une aide particulière. Mmh. C'est lié au fait qu'elle a contribué, qu'elle a payé des cotisations sociales pendant 15 ans, 20 ans, et qu'aujourd'hui, au même titre qu'un autre contributeur, elle peut en bénéficier. Donc c'est pas exceptionnel, ça.
Christophe Dabin.
Oui, moi j'irai plus loin, c'est que c'est pas parce qu'on est une association qu'on n'a pas le droit au fond d'aide de l'État. C'est tout simplement parce qu'on n'est pas dans la liste qui avait été fixée. C'est-à-dire que même si on a alerté plusieurs fois, que ce soit avec le haut-commissaire, que ce soit avec le gouvernement, où le gouvernement a dit dans le plan de sauvegarde, on va faire ce qu'il faut pour que vous ayez le fond, mais aujourd'hui, malgré tous les appels et les demandes de tout le monde, de toute façon, quoi qu'il arrive, les associations ne sont pas dans la liste de ceux qui pourraient prétendre ou pas. Et maintenant, on arrive à la fin du fonds. Donc, je veux dire, c'est trop tard. Mmh. Mais ça aurait pu apporter une véritable aide aujourd'hui à toutes les associations qui ont des salariés, qui ont parfois, pour certains, été obligés de licencier, pour d'autres, de réduire les heures. Et on aurait pu, comme n'importe quelle petite entreprise, pouvoir bénéficier d'une aide qui nous aurait permis, pour un grand nombre d'entre nous, à pouvoir continuer à fonctionner, je dirais pas normalement, mais le plus normalement possible.
Thibaut Bizet.
Mais c'est même plus grave que ça, c'est-à-dire que ça questionne aussi sur la considération des associations, parce que là, on fait clairement l'objet d'un traitement inéquitable, et alors que, un, on est soumis au code du travail, et que, deux, on est cotisant au même titre qu'une entreprise. On n'a pas, sur les cotisations sociales, de réduction. On cotise au même titre qu'une entreprise privée.
Vous avez les mêmes charges concernant le personnel que vous employez.
Charges sociales, charges patronales. Oui. Et c'est complètement fou, c'est-à-dire que... Et là, maintenant, la réponse de l'État, elle était très claire, parce qu'on a été reçu par la visite interministérielle pour la reconstruction, et en fait, clairement, aujourd'hui, l'État, il nous dit, on a mis un plan pour aider les institutions calédoniennes, vous voyez avec vos élus. Voilà. Mmh. Ça a été très clair. Donc, il vaut mieux être déçu qu'être incertain, mais on reste quand même très déçu. Donc, clairement, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a encore du travail pour pouvoir faire reconnaître notre travail et nos besoins.
Alors, justement, parlons un peu des moyens dont vous disposez, parce que vous n'allez pas tendre la main comme ça indéfiniment. Ce n'est pas ce que vous faites, d'ailleurs, depuis des années. Vous prenez en charge, vous cherchez de nouveaux financements, vous faites appel au secteur privé quand c'est possible. Il y a du parrainage, notamment dans le sport, ou peut-être aussi dans des activités culturelles, etc. Aujourd'hui, quelles sont les pistes qu'il faudrait développer, peut-être, pour diversifier les ressources pour les associations, même si la période est très compliquée? Quelles sont les pistes qui existent, Viviane Lafay, ou Quentin Rétali, ou qui veut parler, Quentin Rétali.
Alors, le problème, encore une fois, c'est qu'on a passé 10 ans à diversifier et qu'on arrivait à un degré qui est quand même assez extrême. Et que là, aujourd'hui, il y a le problème des baisses de subventions, il y a aussi des fois des maintiens qui sont très bien, mais le problème, c'est la partie complémentaire, c'est elle qui a beaucoup, qui s'est effondrée. Quand on a 60% qui viennent d'autres choses que des conventions avec les institutions, et que le secteur économique dont dépendent ces 60%-là s'effondre, forcément...
Donc ça veut dire que même du côté du privé,
vous pouvez pas aller demander à une entreprise qui est au bord de la faillite de vous faire du mécénat, c'est indécent. C'est, je veux dire, même si y a la meilleure volonté du monde, à un moment, si l'entreprise elle est en mal, elle va pas le faire. De la même manière, un particulier qui a perdu son emploi, il va pas vous faire du mécénat, il va pas vous faire un don aussi facilement. D'habitude, ça lui permet d'économiser sur les impôts, c'est bien. Mais là, s'il va pas en payer, parce que de toute façon, il a plus les moyens, c'est normal.
Thibaut Bizet.
Ce que je voulais dire, c'est qu'en gros, on n'est pas tous égaux. Il y a des secteurs où il y a plus d'appels à projets, donc il y a plus de possibilités. Après, les appels à projets, c'est on les fait maintenant et on a l'argent dans un an. Donc ça veut dire que l'activité, dans tous les cas, elle est menacée. Le monde économique ne permet plus trop de faire du mécénat, du sponsoring et des donations. Si les subventions disparaissent, elles aussi, et c'est ce qui, petit à petit, pointe le bout de son nez, fondamentalement, il ne reste pas grand-chose à part les appels à projets et la vente de prestations. Sauf que les appels à projets, c'est dans un moment, et les prestations, c'est compliqué dans le monde économique dans lequel on vit aujourd'hui.
Viviane Lafay.
Je pense que le sujet, il est même encore plus vaste que ça, puisqu'on est en train de parler de refondation. On fait partie d'une forme d'économie qu'on pourrait qualifier d'économie sociale et solidaire, et que si on veut de toute façon relancer l'économie sur le territoire, il va bien falloir prendre un certain nombre de mesures qui prennent aussi en compte cette forme spécifique d'économie autre, autrement. On fait de l'économie avec de la valeur, mais on le fait autrement. Donc, ça ne répond pas à la question, au sens je n'ai pas de baguette magique, malgré mon nom.
Apparemment, personne.
Voilà, pour savoir ce qu'il faut faire. Mais en
Viviane
tout cas,
l'a fait, oui.
Voilà, tout à fait. Mais pour autant, il y a des mesures qui vont devoir être prises, et les prendre en considérant cette forme d'économie, même pour d'autres structures qui veulent se créer, on a des porteurs, donc qui effectivement ont envie aussi de se développer sous ces axes-là, il va falloir aussi pouvoir leur donner un espace, une place. Parce que c'est aussi l'économie.
Christophe Dabin.
Alors c'est vrai que nous, ça fait quelques années qu'on travaille sur ce financement du mouvement sportif. Alors je ne parle que de mouvement sportif, désolé.
Non, mais
en même temps, vous êtes
président du CPOS.
Mais voilà. C'est vrai qu'on s'est dit à un moment ou à un autre qu'il fallait trouver un nouveau modèle de financement, parce qu'on ne peut plus être systématiquement, sous la générosité des institutions, si à un moment ou à un autre, elles ne peuvent pas aider. C'est vrai que nous, on a lancé une idée depuis maintenant plusieurs années, qui est la création d'un fonds du développement du sport. La chance que l'on a, c'est que le membre du gouvernement en charge du sport, M. Forest, a pris cette idée en main. Et donc, normalement, ils doivent arriver peut-être à créer ce fonds de développement du sport qui serait alimenté non par les taxes comportementales. C'est clair qu'au niveau du sport, on peut intervenir par le biais de l'activité physique et sportive, tout ça. Donc, ça nous permettrait d'avoir un argent. Mais après, ici, je pense que on doit voir, par exemple, ce qui se passe à côté de chez nous, en Australie, dans les pays anglo-saxons, où ils n'ont pas le même fonctionnement que nous. Mais de la même manière, je veux dire, quand on regarde Quentin parler beaucoup des mécènes, mais comment voulez-vous, même moi, si j'ai encore quelques partenaires financiers économiques, mais je veux dire, aujourd'hui, extrêmement difficile de trouver rien que par celui-là. Donc si on avait un fonds de développement qui soit peut-être plus général et qui permettrait que par des taxes, par des sponsoring, par du mécénat, et que tout le monde puisse être concerné, ça permettrait peut-être de ne pas être systématiquement, je veux dire, à la disposition et à l'attente de ce que les institutions pourraient verser.
Thibaut Usien.
Moi, je voulais rebondir parce que tu dis à la bonne générosité, et en fait, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, on a l'impression que c'est une faveur. Et la subvention n'est pas une faveur. Surtout quand ce sont des associations qui contribuent au service public ou qui le portent, tout simplement, hein, tout bonnement. C'est une contribution, un cofinancement, en fait. Et en ce sens, même si demain les assos, en tout cas pour celles qui assurent un service public, arrivent à s'autofinancer, il y a une forme d'injustice parce que l'institution doit contribuer à ce service public. C'est normal, c'est sa compétence. Alors après, à quelle hauteur, ça c'est quelque chose qui doit être décidé et discuté. Mais je veux dire, on ne peut pas entendre qu'une subvention, c'est de la générosité ou de la faveur. Non, c'est un cofinancement. Et nous, en tant que bons gestionnaires et en tant que collaborateurs ou collaboratrices, parce que c'est ce que nous sommes, on aide la politique publique, on l'appuie. À quelle hauteur vous nous accompagnez et à quelle hauteur nous, on va aller chercher des fonds pour cofinancer. C'est pas les institutions qui aident les assos, c'est les associations qui aident les institutions parce qu'elles vont chercher des cofinancements pour financer des projets qui n'auraient pas pu être financés à cette hauteur par la collectivité.
Parce que oui, il y a un message qu'on dit souvent, et je pense que tout le monde pareil, c'est qu'on dit bien aux institutions à chaque fois qu'on n'est pas des mendiants. On n'est pas là pour tendre la main. C'est que quand on a des financements pour faire, c'est parce qu'on a une mission à remplir. Si maintenant on n'avait pas de mission, je veux dire, l'association n'a pas de raison d'être, et donc du coup il n'y a pas de subvention, mais on n'est pas des mendiants, on n'est pas là pour tendre la main. C'est que ce que l'on fait aujourd'hui, c'est on rend un service à l'ensemble de la population, ce service qui, pour moi, n'est pas automatiquement rendu par les collectivités. C'est vrai qu'il y avait quelques années, dans beaucoup d'associations, il y avait des salariés qui étaient mis à disposition. La mise à disposition, c'est tout simplement, je veux dire, des personnes, et c'est la collectivité qui paye. Et puis, on est arrivé au fur et à mesure des années à ce que toutes ces mises à disposition, elles soient arrêtées. Et maintenant, ces mises à disposition, elles sont remplacées par des subventions que l'on donne aux associations. Du coup, on devient employeur, on emploie quelqu'un, on a une subvention, mais on s'aperçoit que la subvention, elle n'est jamais suffisante pour arriver au bout parce que, Thibault l'a dit tout à l'heure, on n'a pas, nous, de régime particulier sur la CAFAT. Hein, je veux dire, on paye 100%. On n'est pas agriculteur, on n'est pas dans d'autres domaines. Donc, nous, c'est cotisation totale. Et je veux dire, c'est une somme extrêmement importante chaque année.
Alors la mise à disposition peut-être de salariés pour aider les associations, c'est une piste réelle, Thibaut Bizien. Est-ce que ça fait partie un peu de ce que vous travaillez avec l'AFD sur le bénévolat de compétences aussi?
Oui, complètement. L'AFD justement l'a mise en place et c'est plutôt intéressant. Alors c'est quelque chose qui est absolument utile, parce qu'on a aussi une perte de bénévolat, parce qu'on a aussi une perte d'engagement. Parce que comme on n'a pas de modèle de société dans lequel on se reconnaît, et c'est bien la tâche qui nous incombe à tous, aujourd'hui, les gens ne s'engagent moins. Donc on a besoin effectivement de compenser un manque de bénévolat, et puis un manque, bien sûr, de ressources humaines employées. Et donc oui, complètement. Après, il faut trouver la personne qui va avoir l'appétence et la compétence qui est sollicitée et qui correspond aux besoins de l'association. Mais clairement, c'est une solution qui peut nous permettre de continuer notre activité.
C'est une forme de mécénat, en fait. C'est le mécénat de compétences.
Et ça, c'est une piste sérieuse.
Surtout en ce moment, parce qu'on va avoir une crise dans la fonction publique, puisque l'objectif principal là, des institutions, c'est de maintenir au plus possible leur masse salariale. C'est quand même l'objectif, pour qu'on n'effondre pas complètement le système de... le système économique, mais du coup on va se retrouver avec beaucoup de personnes employées dans la fonction publique et une capacité d'action de la fonction publique du fait des destructions, etc., moindre. Il va probablement y avoir moins de travail en fait parmi les actuels fonctionnaires et du coup, plutôt que d'inventer du faux travail, parce qu'on a beaucoup de gens qui sont dans du faux travail depuis 6 mois, mettez-les à disposition d'associations par rapport à des engagements qu'ils veulent avoir, et puis du coup ils vont pouvoir venir supplanter à des moyens qui disparaissent.
Ça, c'est un point important, surtout que vous êtes capables les uns et les autres de définir des postes précis avec des besoins et des compétences précises, j'imagine.
Il y a des gens qui sont dans la fonction publique aujourd'hui qui ont été formés dans l'associatif,
Donc on sait faire, en fait, comme les autres.
On a des fiches de poste, des contrats.
Non, mais voilà, c'est bien de le dire.
Mais c'est vrai qu'il a que Quentin a entièrement raison. Aujourd'hui, c'est vrai que moi, je suis dans la fonction publique, donc c'est vrai qu'on a un certain nombre de fonctionnaires, de contractuels. C'est vrai que là, par rapport à tout ce qui s'est passé, on est obligé de se réorganiser. Comme ça s'est passé pendant le temps où on a repris petit à petit, on a eu beaucoup d'éducateurs sportifs qui étaient dans les collectivités, qui ont été dans les écoles, qui ont fait des activités sportives. Et donc, parce que là, on était là, c'est bien pour leur donner un peu d'activité. Là, l'idée qui est de dire, faisons le point, je veux dire, si on peut mettre des gens à disposition, mis à disposition dans les associations, par rapport aux besoins, par rapport aux compétences de chacun, ça nous permettrait déjà, si on a moins de subventions, de se dire, on n'a pas déjà l'inquiétude à se dire, comment je vais arriver à payer les salariés que j'ai. Donc c'est une super idée. Donc j'espère que ceux qui nous écoutent vont nous entendre.
Écoutez, ce modèle-là, ça veut dire que tu licencies les salariés, puisqu'ils sont remplacés par du personnel mis à disposition. C'est délicat.
C'est deux visions différentes, c'est vrai que c'est...
Non, mais
deux
ça peut se compléter. Ouais. En fait, le vrai problème qui se passe, c'est qu'on a un coût de la vie qui augmente depuis 10 ans, des subventions qui baissent depuis 10 ans. Donc il y a un moment, l'équation, elle est compliquée. Et tout ça avec un PIB qui a quasiment été multiplié par 2 sur la période. Donc on se demande un petit peu comment ça s'est reventilé, par quel miracle, en fait, tout ça a disparu. Donc ça, je vous laisserai faire une émission vraiment là-dessus.
On va y penser.
Heureux de voir.
On sait qu'on aura au moins un auditeur. Oui.
Mais du coup...
Attentif. Les auditeurs, il y en a toujours.
Non, mais du coup, voilà, on se dit, nous, les associations, elles ont pour vocation à se développer. On part d'un projet, on a une idée, une intuition citoyenne, et puis on va développer ce projet-là. Et ce projet, dans le sens où, si jamais il fait écho auprès d'une institution en disant « ça répond à quelque chose dont j'ai besoin, quelque chose qui manque. Moi, dans ma compétence, dans le CSP que je dois rendre, il manque ça, et vous l'avez développé. Donc aujourd'hui, on va vous soutenir. Et si ça fonctionne, c'est-à-dire c'est la phase laboratoire un petit peu, on va venir... enrichir ça, rajouter des moyens, parce qu'on va l'étendre et on va le développer de manière à ce que ça soit équitable pour qu'il y ait un maximum de bénéficiaires qui en profitent. Mais quand on est dans une réduction permanente, c'est l'effet inverse qui se passe. C'est-à-dire qu'on vous dit, non, vous êtes toujours très important, vous en faites pas, vous êtes même essentiel. Et des fois, il y a des mots, plus on vous enlève d'argent, plus on vous explique à quel point vous êtes essentiel. C'est assez fou l'opposition qu'il y a entre les financements et le discours. C'est vrai. Et du coup, ce problème, c'est que du coup, on ne peut pas se développer. Ce qui va se passer l'année prochaine, c'est que si les institutions se disent on va maintenir pour telle et telle structure qui nous semble essentielle, importante, etc., on va lui maintenir le même financement que cette année, et ça sera déjà extraordinaire, etc. Sauf qu'en fait, avec l'effondrement des autres ressources que les associations ont, en fait, ça va correspondre à une baisse de budget. Donc ce qui est très compliqué à défendre aujourd'hui, c'est que pour arriver à maintenir le service public associatif, en réalité, il va falloir discuter de hausse de subventions. C'est vraiment très bizarre de parler comme ça, je suis bien d'accord.
Oui, parce que le contexte ne s'y prête pas du tout, bien évidemment. Oui,
oui. Oui, mais on a un arbitrage en notre défaveur depuis longtemps, c'est-à-dire qu'on n'est pas aidé à la proportionnalité de ce qu'on fait.
Est-ce que cette situation particulière et compliquée que traverse la Calédonie, le monde économique et le monde associatif, va permettre de faire bouger les choses? Est-ce que vous pensez, alors on sait bien qu'il risque d'y avoir entre guillemets de la casse, j'imagine qu'il y a un certain nombre d'associations qui vont devoir mettre la clé sous la porte parce qu'elles ne pourront plus fonctionner dans les mois qui viennent, mais est-ce que ça peut permettre de reposer des choses sur des bases nouvelles, de créer justement, pourquoi pas, des conventions pluriannuelles, enfin, d'arriver à faire aboutir des dossiers qui n'ont pas abouti les années précédentes, parce que finalement, quand il y a suffisamment d'argent, on ne fait pas assez de réformes pour faire bouger les choses. Thibaut Bizien.
Pour nous, c'est certain. En écologie, on dit de gré ou de force. C'est-à-dire qu'en fait, soit on croit au climat et on s'y adapte, soit on n'y croit pas. Et puis de toute façon, il nous forcera à faire les changements nécessaires pour nous y adapter. C'est pareil au niveau politique. En fait, c'est soit on y va et on fait les choses bien et on prévient la crise et on y va. Soit, de toute façon, la crise va obliger qu'on fonctionnera sur des conventions pluriannuelles parce que sinon, les gens ne s'engageront plus parce que les associations et une partie qui vont devoir arrêter leur activité. Et quand cette carence va arriver, je pense qu'on n'est pas prêt pour la crise sociale qui va se renforcer. Et ça, ça, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que le rôle de ciment social des associations, à quel point il peut tenir, combien de temps et comment il accompagne.
Viviane Affé.
C'est aussi dans ce sens-là que le collectif des associations a été réanimé, entre guillemets. C'est bien parce qu'effectivement, on n'a pas le choix, comme tout le restant de l'économie, que de la résilience. Donc l'idée, c'est quelle opportunité on peut tirer de la situation. Il y en a sûrement, il y en a, parce qu'on peut toujours mieux faire, on peut s'organiser, on peut mutualiser. Enfin, en tout cas, il y a des choses à faire. Et comme tout le restant des pans de l'économie, on n'a pas vraiment d'autre choix que de la résilience, en fait.
Oui, ce n'est pas une option, malheureusement.
C'est ça ou arrêter.
Oui. C'est après un peu le principe de la résilience aussi.
Mais,
pour terminer,
mais Jean-François, il y a une chose qui est importante, c'est qu'heureusement qu'il y a de la résilience dans le monde associatif, parce qu'aujourd'hui, depuis le 13 mai, même après, je veux dire, tout le monde aurait tout abandonné et on aurait laissé tout tomber. Je veux dire, c'est parce que je pense dans le monde associatif, qu'on soit des bénévoles, qu'on soit des salariés, c'est que on a un engagement qui est total, on a un investissement, on a tout ça. Et si on est encore là, c'est parce que on croit au rôle et aux missions qui sont celles du mouvement associatif. Maintenant, moi, j'ai dit l'autre jour, j'ai eu la chance au niveau professionnel d'intervenir sur au niveau du plan PS2R. J'ai mis en avant cette idée d'association pour dire on peut pas. Et je leur ai dit si on n'agit pas maintenant, le monde associatif va se casser la figure, va disparaître. Pourtant, dans l'idée de reconstruction qu'on a aujourd'hui de tout le monde, le monde associatif va être le premier qui va être sur le terrain. C'est le premier qui est déjà sur le terrain. Donc, si on n'a plus personne dans le monde associatif, on n'a plus d'association, tout ce travail de premier plan, de la première chose à faire, il n'y aura personne et les collectivités n'auront pas les moyens de le faire. Donc, soit on prend conscience de l'importance du monde associatif et dans ce cas-là, nos collectivités trouvent la solution et font des propositions. Mais autrement, si rien n'est fait, moi je vois dans le monde sportif, et je parle que le monde sportif, quand je vois les bénévoles, au bout d'un moment les bénévoles ils en ont ras-le-bol, ok. Et d'un côté, si on disparaît, la reconstruction, à mon sens, elle ne peut passer que par nous qui sommes sur le terrain. Après, il y a tout ce qui est économique qui aidera pour avoir les financements, mais si le monde associatif n'est pas présent, la reconstruction prendra beaucoup plus de temps et sera beaucoup plus difficile.
Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus sur, on pourrait dire encore beaucoup de choses, sur le fonctionnement des associations et la difficulté qu'elles traversent aujourd'hui. Merci en tout cas d'être venus nous partager ces inquiétudes, mais aussi tout ce que vous portez les uns et les autres par rapport à l'avenir. C'est une émission qui sera disponible en réécoute pour ceux qui le souhaitent très rapidement sur le site de Radio Rythme Bleu. Merci à tous les quatre.
Merci.